15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgentiste et en fait quand vous n'êtes pas sur ce plateau, vous êtes au domicile des patients, en tout cas chez nous, ici, du lundi au vendredi. C'est la santé des auditeurs d'Europe 1 que nous allons chouchouter. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la confiance en soi. Comment mieux s'estimer pour avancer dans la vie en s'aimant davantage? Notre invitée, la professeure du bonheur Florence Servan-Schreiber, nous apprendra à dépister nos super pouvoirs. Et oui, on en a tous, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme sur le gaz hilarant, jusque-là utilisé en médecine. De plus en plus de jeunes le détournent à des fins récréatives et les risques pour leur santé sont énormes. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler bronzage. L'été, c'est presque fini, mais on voudrait tous garder ce joli teint allé le plus longtemps possible. On vous dira comment faire. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. En compagnie de Catherine Blanc, notre sexologue, on va parler des sextoys aujourd'hui. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle d'une jeune maman, Clara, qui a 29 ans. On l'écoute.
Mon fils va bientôt faire son entrée à l'école et malheureusement, depuis tout petit, il est très accro à sa tétine et on n'arrive pas à l'en séparer. Donc je me posais des questions, je voulais savoir si vous aviez des astuces et conseils pour essayer de l'en détacher progressivement, voilà, et éviter les crises quotidiennes. Merci beaucoup pour vos réponses. Au revoir.
Alors Jimmy, la tétine, alors c'est un gros sujet pour les parents d'enfants en bas âge, comme vous et moi d'ailleurs. 7 enfants sur 10, grosso modo, ils ont une tétine, mais à un moment, effectivement, il faut arrêter. Jimmy, justement, vers quel âge il faut raisonnablement essayer de leur enlever au moins la journée, je dirais?
Alors le plus tôt, c'est le mieux. Les tout petits ont un besoin de succion très important, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils en ont de moins en moins besoin. Alors globalement, on essaie de les sevrer vers 2-3 ans et on n'a pas le choix au moment de l'âge en entrée à l'école maternelle.
Ah oui, là, on
donc
pas
c'est
le
la date limite, donc il faut aussi anticiper pour ne pas se retrouver fin août un peu dans l'urgence.
Alors ça arrive parfois. Bon, l'idée c'est quand même de faire ça en douceur. Vous dites, on les prépare, on n'attend pas le jour de la rentrée. Donc on va essayer de ne pas les traumatiser avec ça. Et expliquer, ça passe aussi donc par des explications. À 3 ans, un enfant, il est quand même capable de comprendre pas mal de choses. Donc, on essaye peu à peu de leur expliquer quoi que la journée, c'est pas nécessaire, la tétine. On la laisse dans la nuit, dans le lit, dans une boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme astuce comme ça pour le faire
alors,
en douceur?
J'ai subi le même problème avec mon fils. J'ai rencontré un dentiste, le docteur Bich Tienengo, qui est dentiste dans le 16e arrondissement, qui a expliqué une technique qui marche à tous les coups. C'est satisfait, remboursé.
Bon, là, vous payez pas. Vous l'avez testé apparemment,
oui,
donc bon, ça fonctionne.
Voilà, exactement, ça fonctionne. Ça s'appelle la fée des tétines. Vous expliquez à votre enfant, la nuit, il est en âge de comprendre, 2 ans et demi, 3 ans, c'est parfait, qu'une petite fée va venir.
Donc vous lui racontez un bobard en fait.
Mais ça marche, mais l'essentiel, ah oui, mais bon, le Père Noël, c'est peut-être aussi un petit mensonge, mais certains mensonges font du bien. Et en l'occurrence, vous lui posez un verre de lait, vous dites qu'on laisse un petit verre de lait et un petit gâteau pour la fée des tétines le soir avant de se coucher, que la fée des tétines durant la nuit va venir prendre la tétine de votre enfant pour la donner aux autres bébés qui en ont besoin, parce que finalement,
c'est un
système de redistribution
grand, en fait,
et on va aider
ça.
Les petits. Et peut-être qu'en échange, la fée des tétines vous laissera une petite pièce ou un petit jouet. Et je peux vous assurer que c'est du 100% gagnant. Votre enfant,
ça
le lendemain,
marché, c'est testé,
comprendra, c'est testé, lu,
approuvé par Jimmy Mohamed.
Je valide.
Donc c'est un peu du chantage en fait, c'est cadeau contre tétine. Je sais qu'il y en a qui le font aussi au moment de la petite souris, quand on perd les dents, enfin c'est un peu tard, parce que les dents ça tombe un peu plus tard. Mais finalement, c'est une façon quand même de préparer le terrain, quoi, c'est ça.
Exactement, mais je vous assure que ça marche vraiment. Faites-le, vous verrez, faites raconter l'histoire par quelqu'un d'autre par exemple. Mais ça marche à tous les coups, mais on peut essayer à Noël. Parfois on fait ce petit échange, cadeau de Noël contre tétine. Mais quand c'est en décembre, ça peut être un peu loin. Donc, mais oui, même si c'est un peu de chantage affectif, et voilà.
C'est pas méchant.
Tout, c'est de pas être dans la culpabilité de dire t'es qu'un gros bébé si t'as une tétine,
ah oui,
allez, grandis.
Ouais.
Maintenant, il y en a
copains,
marre.
Ils en ont plus.
Exactement.
Ça, ça marche pas bien.
Ça, ça marche pas. Ne jamais culpabiliser l'enfant, ne jamais se moquer de lui et les menaces ne marchent jamais.
Puis il y a des petits livres aussi qui existent pour les enfants. Il y en a plusieurs qu'on peut trouver un peu partout. Adieu tétine, avec des personnages sympathiques auxquels ils peuvent s'identifier.
Exactement.
Et puis il y a un dernier remède quand même. Si vraiment tout ça, ça marche pas, on peut peut-être les amener voir le dentiste par exemple.
Exactement. Le dentiste ou le médecin. Je vous assure que moi, quand je vais en visite le soir, je raconte cette histoire aux enfants qui ont une tétine, même s'ils ne consultent pas du tout pour ça. Quand il y a un interlocuteur externe, ça peut aider.
Ok, merci beaucoup Jimmy. On va passer donc à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Paul Vincent. Il a 30 ans et nous a appelé depuis Cergy. On écoute sa question.
Bonjour. Alors, j'ai souvent des maux de ventre et un ami m'a recommandé de prendre des probiotiques. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait en trouver dans les produits laitiers en supermarché. Merci.
Alors d'abord Jimmy, c'est quoi en fait les probiotiques concrètement ?
Alors les probiotiques, c'est des bactéries que nous avons de façon naturelle dans notre système digestif. On a des milliards de bactéries et l'ensemble de ces bactéries forment ce qu'on appelle le microbiote. Et ces dernières années, on s'est rendu compte que c'était en quelque sorte notre deuxième cerveau et que si on a trop de bactéries ou pas assez de bonnes bactéries, on peut avoir des maladies inflammatoires, de l'allergie et donc on est en train de se dire que le microbiote, c'est l'avenir.
Parce que ce microbiote, il agit sur le système immunitaire en fait, c'est ce que les chercheurs montrent aujourd'hui.
Exactement,
hein,
il pourrait être en cause dans certaines maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Et désormais, on se pose vraiment la question de greffer de la matière fécale pour transmettre les bonnes bactéries pour lutter contre des infections.
Ah oui, d'accord. Et du coup, pour revenir à la question de cet auditeur, ça passe par ces probiotiques. On voit aujourd'hui les industriels de l'agroalimentaire, ils ont évidemment surfé sur ce truc-là. On vend plein de petits yaourts fermentés à boire, soi-disant plein de probiotiques. Ça va être efficace, ça, pour ces maladies-là dont vous avez parlé, Crohn, etc.
Non, on leur a dit d'ailleurs d'arrêter cette appellation de la publicité mensongère. En revanche, si vous êtes un peu ballonné, que vous avez des troubles digestifs pas méchants, vous pouvez en prendre. Mais si vous voulez des probiotiques, on en prescrit notamment lorsqu'on prescrit des antibiotiques pour éviter la diarrhée, notamment chez les enfants.
Donc ça, c'est sur prescription
médicale.
Hein,
mais c'est aussi en libre accès à la pharmacie. Votre pharmacien peut vous conseiller. Ou aussi pour éviter parfois des vaginoses, d'avoir une petite mycose lorsqu'on prend des antibiotiques. Donc, on peut en prendre. Mais dans ces cas-là, c'est des sachets contenant de vrais probiotiques.
Il y en a beaucoup plus que dans les yaourts, par
exemple.
Il y en
a plus dans les yaourts. Ou parfois, des bébés qui ont des coliques, on leur donne des petites gouttes le matin pour éviter les coliques.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Paul Vincent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed justement va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va pousser un coup de gueule sur le détournement du gaz hilarant par certains jeunes. Attention, c'est très risqué. Et puis, on accueillera notre invitée aussi du jour, la professeure du bonheur Florence Servan-Schreiber. Avec elle, on parlera de comment améliorer sa confiance en soi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes la professeure du bonheur Florence Servan-Schreiber pour parler de confiance en soi, d'estime de soi. Tout de suite, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, un bon conseil plutôt sous la forme d'une mise en garde, je dirais, puisque vous allez nous parler du gaz hilarant. Alors d'abord, c'est quoi ce gaz hilarant ? En fait, quand on dit gaz hilarant, ça a l'air assez sympa comme truc. Mais
oui,
je
c'est vrai
pas.
Que c'est sympa et c'est utilisé plutôt à des fins médicales et dans l'industrie, notamment lorsque vous devez aller chez le dentiste ou lorsqu'on doit faire une petite suture. On met ce petit gaz hilarant chez les enfants qui permet une sensation d'euphorie proche de celle de l'ivresse.
Alors, ce gaz, il était utilisé par les médecins et vous dites qu'aujourd'hui, justement, il est détourné à des fins récréatives. Bon, est-ce que c'est si fréquent que ça, d'ailleurs, et comment on s'en est aperçu, finalement ? Comment on s'en procure de ce gaz hilarant ?
Eh bien, malheureusement, c'est très facile de s'en procurer. On en trouve dans les petites cartouches pour recharger les siphons lorsque vous faites votre chantilly. Donc, c'est en accès libre.
Au supermarché. Quoi.
Au supermarché, tout simplement. Et en fait, les jeunes décident d'aspirer ces petites cartouches. Sauf qu'il y a un risque sur le court terme, le moyen et le très long terme. Et des maires ont même mis des arrêtés pour les interdire à la vente. Pour éviter que les jeunes l'utilisent. Et vous verrez que parfois dans la rue, on trouve ces cartouches un peu traînées
au
à droite
sol,
et à gauche.
Dans les parcs, ou des choses comme ça, où les jeunes vont traîner
preuve
parfois le soir.
Preuve de la veille et on néglige les conséquences que ça peut avoir sur la santé.
Alors quand on ingère ce type de produit, on a compris, ça a l'air dangereux, mais quel est l'effet qu'on ressent au moment où on ingère ça ?
Alors l'effet, il est quasiment immédiat, il dure 2 à 3 minutes et c'est un effet plutôt euphorisant, comme si vous aviez bu, sauf que vous atterrissez entre guillemets assez rapidement.
Ça dure quelques secondes.
Ça dure
en fait.
Quelques secondes. Quand on est au bout de 2-3 minutes, le produit n'existe plus dans le sang ni dans le corps. Donc on se dit, finalement, c'est pas si mal. Sauf qu'il y a des risques sur le court terme. Le premier, c'est que vous pouvez vous brûler. N'oubliez pas que si vous aspirez ces cartouches, elles peuvent vous brûler la lèvre.
Il ne faut pas le faire, on le rappelle.
Il ne faut pas le faire. La langue, brûlez vos cordes vocales.
Ah oui.
Vous risquez de vous asphyxier parce que c'est que du protoxyde d'azote. Il n'y a pas d'oxygène. Un homme est mort de ça l'année dernière. Sur le très court terme, vous risquez de perdre connaissance. En perdant connaissance, vos réflexes de déglutition sont abolis.
On va s'étouffer.
Vous pouvez vous étouffer, faire une fausse route si vous avez mangé quelque chose
avec
exactement.
Une chute.
Et donc, il y a un vrai risque de malaise cardiaque, de baisse de tension, de perte de connaissance. Donc, ne le faites pas.
Bon, vous dites déjà à court terme, mais est-ce qu'à long terme aussi, il y a des risques, je ne sais pas, pour le cerveau ou
exactement.
Alors,
on s'en est rendu compte parce que en Corée notamment et aux États-Unis, ils l'utilisent depuis très longtemps les jeunes, malheureusement. Et une utilisation répétée provoque une altération du métabolisme de la vitamine B12. Sauf que cette vitamine B12 est essentielle pour notre cerveau.
C'est-à-dire qu'elle ne reste plus dans notre organisme comme il faut.
On en a, mais elle ne sait plus fonctionner. Et donc on a beau en ingérer, ça ne marche plus. Sauf que quand ça ne marche plus, ça vous paralyse la moelle. Donc sur le long terme, vous risquez de paralyser votre moelle épinière, d'avoir des troubles neurologiques graves suite à l'utilisation répétée de ces cartouches. Donc attention, c'est vraiment extrêmement dangereux.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. On va parler de confiance en soi, d'estime de soi avec une spécialiste puisqu'elle est professeure du bonheur. Il s'agit de Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du livre Power Patate, on a tous des super pouvoirs chez Marabout. D'abord quand on parle de confiance en soi, en fait on a l'impression quand même qu'à la naissance on n'est pas très tous égaux. En fait il y en a qui naissent avec un gros capital de confiance en soi. Est-ce que ça vient peut-être, je ne sais pas, de l'éducation parce que nos parents nous ont choyés, admirés, je ne sais pas, portés au nu. Et du coup ça vient de quoi en fait? Pourquoi certains ont confiance et puis certains non au départ quoi déjà?
Alors en effet d'abord nous ne sommes égaux sur rien puisque nous sommes tous absolument différents, notre constitution, composition est différente, notre éducation l'est aussi, notre environnement familial l'est aussi. Mais la confiance en soi, au-delà de ce que nos parents nous ont dit, vient surtout de la manière dont on se parle à soi. Et c'est la manière dont on va lire et se reprocher, être satisfait ou non de ce que l'on fait, de ce que l'on exécute, de ce qu'on ressent.
D'accord. Et vous n'aimez pas d'ailleurs ce terme, vous, de confiance en soi? Vous dites quoi à la place?
Non, alors je préfère l'estime de soi parce que là, il y a quelque chose de compétitif dans la confiance, c'est-à-dire que je peux l'avoir ou je ne peux pas l'avoir. Lorsqu'on pense à l'estime, c'est plus une échelle, c'est-à-dire que j'en ai peu, j'en ai moyennement, j'en ai plus, et on sent que ça peut varier, que ça peut monter, que ça peut descendre, c'est pas j'ai ou je n'ai pas. Mais s'il est déjà l'heure d'en parler. En fait, les chercheurs en psychologie sont en train de remplacer cette terminologie en se rendant compte que ce qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir de l'estime pour soi, c'est d'avoir de l'autocompassion pour soi. Donc, c'est quoi? C'est la capacité de se consoler, de se prendre dans les bras, d'être gentil avec soi. Et plus nous savons développer ça, plus nous serons satisfaits de qui nous sommes.
Docteur Jim Mohamed.
Bon, mais concrètement, par exemple, demain, on se fait licencier, on se fait quitter, larguer, parce que voilà, ça ne va plus.
Il voit tout en noir, Jimmy, j'ai l'impression.
C'est aussi des événements de la vie qu'on subit tous et qu'on n'affronte pas tous de la même façon. Comment est-ce qu'on fait pour s'auto-câliner?
C'est précisément le moment pour s'auto-câliner. Imaginez que moi, j'arrive et je vous dis, Jimmy, voilà, j'ai perdu mon job hier, enfin, j'ai perdu mon emploi, on m'a licencié, etc. Vous allez avoir l'élan, justement, de soit me mettre la main sur le bras, enfin, comme vous faites avec vos patients, j'imagine, tout le temps, et d'essayer de me rassurer, de me consoler, de me dire que c'est un moment difficile à passer et que ça va aller bien. Si on fait ça pour soi, on gagne du temps parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se dit, je viens de me faire virer. Et alors, en plus de ça, je me suis mise dans cette situation-là. Ça veut dire que je suis inemployable. Ça veut dire que je ne vais pas retrouver de boulot. Et on s'accable en plus. Alors que déjà, ça va bien comme ça. On a quand même déjà perdu son job. Donc, on se soutient.
Parce que c'est humain aussi ça. Et est-ce que c'est humain ou c'est français d'ailleurs de toujours regarder le négatif finalement? On a plus de facilité à se dire ah, je suis nul, je suis pas bon, je suis timide, plutôt que se dire ah, je suis génial. Non,
c'est... Oui, bien sûr. Alors d'une part, c'est un peu culturel chez nous, mais même par défaut, notre cerveau est toujours câblé pour percevoir le négatif. Ça fait beaucoup plus de bruit. C'est important aussi de pouvoir repérer le négatif parce que c'est ça qui va nous permettre de nous défendre, de nous sauver, de faire ce que nous avons à faire. C'est un réflexe archaïque de voir ce qui ne va pas. Mais justement, une fois qu'on sait ça, on peut choisir de commencer à être plus gentil avec soi.
Merci beaucoup Florence Servan-Schreiber. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons continuer à parler d'estime de soi. Donc on ne dit pas confiance en soi, estime de soi c'est mieux. Mais surtout on va apprendre grâce à vous à dépister nos super pouvoirs. Vous allez voir, il suffit d'en trouver 5 pour aller de l'avant. Mais d'abord, un peu de musique. On écoute le titre « Viens » de Yannick Noah.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, Florence Servan-Schreiber. Vous êtes professeur du bonheur et aujourd'hui, vous nous apprenez à mieux nous aimer, à s'attarder sur le positif pour mieux avancer dans la vie. Alors, on va passer au concret, justement. Vous avez créé, je crois, des ateliers où vous apprenez aux gens à convoquer leurs super pouvoirs. Bon, d'abord, c'est quoi ces super pouvoirs? On ne parle pas de Superman ou de super-héros,
non.
C'est quoi?
Non, on parle avant tout de qualités extraordinairement banales, sauf que ce sont les nôtres. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on est tellement rapide à trouver ses défauts que nous oublions tout simplement qu'il y a tout un tas de choses que nous aimons faire, que nous savons faire, que nous réussissons et surtout qui nous donnent de l'énergie. C'est ça.
Jimmy?
Bah justement, on connaît tous nos défauts, mais pas souvent nos qualités. Et comment on fait pour les retrouver, notamment lorsque ça ne va pas? Parce que je suppose quand tout va bien, on n'a pas
trop... Ça va jamais, hein. Il pose toutes des questions, ça va pas.
Mais c'est très pratique. Non, mais en même temps, c'est vrai, au moment où on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour trouver des qualités qui pourraient peut-être faire qu'on va sortir de cette spirale un peu négative?
Alors, d'abord, on va surtout s'y intéresser pour éviter la spirale négative. Parce que ce qui est intéressant dans toutes ces notions de connaître justement quels sont nos appétits, compétences et appétences, c'est que justement, on va éviter le pire. C'est-à-dire qu'en s'en servant... on va être plus exprimé, plus épanoui, plus satisfait, on aura plus d'énergie. Donc, c'est plutôt ça qui va nous éviter de dégringoler plutôt que de partir de la dégringole. On va essayer de trouver... Enfin, alors, d'abord, il y a des choses assez précises qui existent, hein, parce que donc, il y a tout un tas de laboratoires d'université, notamment aux États-Unis, qui essayent qui non seulement a listé l'ensemble de ce que peuvent être des qualités humaines, mais a mis au point des instruments. Donc, ce sont des questionnaires auxquels on répond et qui vont nous orienter en nous disant... en fonction de vos réponses. Donc voilà, vos qualités ont l'air d'être celles-ci, celles-ci et celles-là.
C'est quoi, par exemple ?
La créativité en est une, la curiosité en est une, le sens de la justice, la persévérance, l'honnêteté.
L'empathie, non, je sais pas.
L'empathie, ça, on appelle ça l'intelligence sociale, donc la capacité à se mettre au niveau des gens. Donc vous voyez, ce sont des choses très très banales, en fait.
C'est nos qualités, en fait.
Ce sont des qualités. Les super pouvoirs, ce sont des qualités. Et alors, en fait, on s'aperçoit que quand on se sert de ces 5 premières, celles qui nous viennent le plus naturellement, non seulement tout est plus facile, mais on va se sortir de toutes les situations, y compris des pires.
Donc imaginons, je me pose 2 minutes, je me dis tiens, finalement je suis assez chouette, je sais pas, je suis curieuse par exemple. Alors, je m'en sers comment? Enfin, je trouve ça juste en réfléchissant sur moi-même comme ça, 2-3 minutes quoi.
Non, parce que alors oui, vous pourriez, mais si vous avez la réponse, c'est génial. Donc vous pouvez vous faire aider. Alors il y a des choses qu'on peut lire,
il y a des tests,
il y a des quiz, des choses comme ça. Il y a le regard des autres. Poser la question aux autres, c'est-à-dire demander aux gens comment ils vous perçoivent, mais de manière assez précise. Vous pouvez leur demander, raconte-moi une situation où tu m'as vu vraiment faire quelque chose que j'ai réussi. Et pas dans l'idée d'être prétentieux du tout, mais de dire raconte-moi un truc où c'était bien.
C'est un peu gênant de demander à l'autre, dis-moi en quoi je suis super quand même.
Ça. Ouais, non, mais ça c'est notre culture, c'est dingue.
C'est un peu égocentrique, non?
Non, mais c'est dingue, alors qu'on serait tellement volontaire pour le dire à nos potes, de leur dire, voilà, moi quand je t'ai vu faire ça, c'était complètement génial. Donc, on le fait en réciproque, je t'en donne un, tu m'en donnes un.
Ah voilà, ça voilà, c'est pas mal, ça fait moins égocentrique.
C'est plus facile pour le faire passer.
Et est-ce qu'on pourrait servir de ces tests pour les plus jeunes, pour peut-être leur donner une voix plus tard? Parce que quand on a 15-16 ans, on ne sait pas quoi faire. Et les conseillers d'orientation ou de désorientation pourraient peut-être servir de ces tests, non?
Absolument, il y a une version qui existe pour les adolescents. Alors attendez, il y a 2 choses. Il y a nos qualités, celles dont nous allons nous servir, et puis sur quel chemin nous allons nous mettre. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut, c'est vrai qu'une fois qu'on connaît ses qualités, on va moins se tromper de chemin, mais on peut se mettre sur plein de chemins. Donc on peut aussi, dans l'orientation, choisir des choses qui ne nous vont pas exactement très bien, mais c'est au moins la manière dont on le fait. Mais oui, bien sûr. Mais vous savez, moi je crois aussi que les ados, il faut les laisser être ados. C'est une période difficile, mais je crois qu'il faut la traverser, la combattre pour avoir des armes quand on arrive dans le monde des adultes. Et si vraiment on aseptise tout, à ce moment-là, il n'y a plus de mécanismes.
On reviendra sur les enfants et les adolescents tout à l'heure, mais je reviens aux adultes, par exemple. Vous aviez dit, il suffit d'en trouver 5. 5, ça suffit, c'est ça? Avec ces 5-là, on se trouve 5 super pouvoirs, 5 qualités, et ça y est, ça suffit à être plus optimiste?
En fait, plus exactement, nous en avons plus que 5.
Ah bah oui.
Mais en nous servant des 5 premiers, on peut se sortir de toutes les situations. Tout à l'heure, Jimmy prenait l'exemple d'un licenciement. Donc, j'ai moi-même été licenciée. C'est comme ça que ce métier m'intéressait et que je fais ce que je fais aujourd'hui.
On peut être devenir professeur du bonheur, c'est assez encourageant.
Eh bien, oui, c'est parce que j'ai été licenciée que je me suis intéressée à ça. Mais très précisément, ma première qualité, celle qui me vient le plus naturellement, qui m'est le plus facile à exercer, c'est ma curiosité. Et donc, on peut se dire que c'est complètement cosmétique d'être curieux, ça consiste à faire des trucs, s'intéresser aux couleurs, mais pas du tout. Justement, dans un cas comme celui-là, je me suis rendu compte à quel point aller apprendre quelque chose de neuf était la seule porte de sortie qui allait me permettre justement d'avoir de nouveau de l'estime pour moi-même. Parce que j'ai évidemment commencé par me dire « je suis inemployable, c'est fini, c'est la fin des haricots, plus personne ne voudra de moi ».
Et on peut
appuyer sur le bon bouton.
On peut éventuellement se faire aider par un coach ou un psy, parce que bon, parfois quand on est très mal, justement, on a du mal à se mettre comme ça en introspection. Est-ce que se faire aider pour trouver ses super pouvoirs, ça peut aider?
Mais évidemment, nous, il y a des gens à disposition, et une fois de plus, il y a des coachs, mais il y a aussi des gens dans notre famille qui nous voient, qui nous aiment, qui nous connaissent, qui sont capables de nous voir et d'être un miroir un peu positif de qui nous sommes. On peut aussi se regarder dans ce miroir-là plutôt que de toujours se trouver des défauts. Qui, de toute façon, nous continuerons à les trouver. Ça n'y a pas de problème, hein, rassurez-vous.
Merci beaucoup, Florence Servan-Schreiber. Alors, on n'en a pas terminé avec vous. Hein. Dans un instant, on va parler, je l'ai dit, aussi des enfants qui manquent de confiance en eux. À quelques jours de la rentrée, comment booster leur morale, qu'ils soient bien sûrs d'eux hein, pour entamer l'année scolaire à fond les ballons. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Florence Servan-Schreiber, professeure du bonheur. Alors il y a quelques minutes, Florence, on a parlé de comment dépister, trouver au fond de soi ses super pouvoirs pour apprendre à mieux s'aimer, à être plus optimiste dans la vie. Mais est-ce que tout ça, ça marche aussi pour les gens vraiment qui sont, donc on disait, au fond du trou? Là, je ne parle même pas de licenciement ou quoi, mais les gens qui sont vraiment dépressifs, par exemple.
Non, alors ça Jimmy, je pense, ne dira pas le contraire. Lorsqu'on souffre de dépression, il faut se soigner. On ne parle plus du tout d'épanouissement, on ne parle pas de connaissances.
Les super pouvoirs, ils ne marchent
plus.
Ils
marcheront à terme. Mais avant tout, il y a une situation pathologique qu'il faut adresser avec des spécialistes. Ce dont je m'occupe, c'est de psychologie positive. La psychologie positive, c'est vraiment la science de l'épanouissement. Donc, c'est quand ça va à peu près, comment on fait en sorte que ça aille encore mieux. Mais quand on souffre de dépression, on fait appel à la psychologie, qui est vraiment, là, pour le coup, un acte médical qui va permettre aux gens de se réparer.
Donc, tous les conseils dont on parle, ça s'adresse aux gens qui ont une partie psychique valide. Quoi.
Nous en avons tous un peu quand même une partie psychique valide.
C'est ça, donc c'est pour eux, ces conseils-là. Oui. Et pour les gens un petit peu déprimés, ça peut aider aussi, mais on ne parle pas de pathologie. Alors, une fois qu'on a trouvé ces super pouvoirs, on nous a expliqué qu'il y avait des quiz, des tests, où on pouvait se faire aider par un coach ou un psy pour les dépister, les trouver. Une fois qu'on les a, comment on les utilise concrètement, très concrètement, par exemple dans sa vie professionnelle?
Eh bien, on va se demander non pas ce que l'on fait, mais comment est-ce que je fais ce que je fais. C'est-à-dire que, typiquement, si je reviens à cet exemple de la créativité chez moi, de la curiosité, pardon.
Vous avez les deux, hein?
Oui, j'ai les deux, mais là me permet précisément d'aller voir l'autre. Je vous donne un exemple très concret. En ce moment, j'écris un livre. C'est très difficile d'écrire un livre, ça demande beaucoup de persévérance, j'en ai très peu, donc il faut vraiment que je m'accroche. Donc j'ai besoin, quand c'est trop difficile, de faire autre chose qui me montre que je suis capable de faire des choses fluides néanmoins. Donc, qu'est-ce que je fais? Typiquement, je peux tout à fait, pour alimenter ma curiosité, ouvrir Instagram, voir qu'il y a une recette de je ne sais quoi qui m'attire et qui m'excite. Je n'y avais pas pensé. Je me mets en cuisine et me revoilà.
Donc cuisiner, ça vous aide à écrire votre livre.
Oui, parce que me revoilà dans une dynamique de création, de production qui est fluide et qui me rappelle que je peux aussi, mon cerveau peut aussi fonctionner comme ça. Et je me remets à ma table d'écriture et à ce moment-là, ça peut repartir. Donc, une fois qu'on sait quel est notre mode de fonctionnement, eh bien, on peut se redonner la chance de redémarrer si jamais ça cale.
Jimmy ?
Mélanie parlait de monde professionnel. Moi, je vois de plus en plus de patients, de personnes, hommes ou femmes, peu importe, qui ont un travail, payent leurs factures, ont un bon niveau de vie et malgré tout s'ennuient au travail et me disent « Mon travail n'a pas de sens. Regardez ce que je fais, je n'apporte rien à la société et je suis malheureux. » Et ils sont tellement malheureux qu'ils ont des troubles du sommeil, des troubles anxieux à cause d'un travail qu'ils font mais qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous devez absolument changer de travail ou non? Regardez, vous payez vos factures, vous êtes un homme ou une femme digne, allez-y, continuez, accrochez-vous.
Nous avons besoin de trois choses. Quand on parle de bonheur, nous avons besoin de plaisir, nous avons besoin d'engagement et nous avons besoin de sens. Donc ce que vous me décrivez là, c'est que ce sont des gens qui sont engagés, puisqu'ils sont dans un processus professionnel où ils vont tous les jours, ils font partie d'une équipe, etc. Le plaisir, peut-être en éprouve-t-il un peu, peut-être pas suffisamment. Et là, ce qui leur manque, c'est le sens. Deux possibilités. Soit j'arrive à trouver du sens dans le travail que je fais en m'y prenant autrement, en parlant autour de moi, etc. Soit ça n'est pas possible, mais j'ai quand même un contrat adulte avec la société et responsable avec la société qui est que je dois payer mes factures.
Et j'ai des enfants.
Et j'ai une famille et j'ai des responsabilités. Donc je reste dans ce travail-là, mais en sachant que je dois aller trouver du sens à l'extérieur. Et à ce moment-là, je peux m'engager sur autre chose, participer à un groupe peut-être, enfin à quelque chose qui va me nourrir. Et ça me permet de supporter ce que je suis en train de faire dans la journée et de retrouver de l'élan. On peut compartimentaliser. Le rêve, c'est quand tout est au même endroit, mais ça n'est pas toujours le cas. Et ça ne dure pas toujours. Parfois, on est très heureux dans un boulot et puis 2 ans après, on n'est plus heureux dans le même boulot.
On va faire un petit exercice. Imaginons, demain, j'ai un entretien d'embauche pour un nouveau boulot. Imaginons aussi, j'ai déjà trouvé mes super pouvoirs. Comment je les utilise là demain pour cet entretien? Par exemple, on a tous un peu le trac avant un entretien d'embauche, c'est normal, mais comment je peux les utiliser concrètement pour réussir cet entretien d'embauche, par exemple?
Alors, tout dépend du vôtre, mais c'est d'abord de vous sentir solide. C'est-à-dire, alors, il y a un petit truc, ça n'a rien à voir avec les super pouvoirs, mais c'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans mon travail. Je parle beaucoup sur des scènes, en public, etc. On m'a appris un truc absolument génial quand on a le trac et tout le monde là. Vous imaginez un cercle au sol. Et vous regardez ce cercle que vous imaginez en vous disant, là-dedans, il y a tous mes super-pouvoirs. Il y a de la confiance, de la compétence, enfin absolument tout ce dont j'ai besoin pour cet entretien. Et puis, vous vous posez un instant après ça et vous faites un pas physique pour aller dans ce cercle imaginaire. Et là, vous laissez monter donc la sensation de confiance, de compétence, de centrage, de créativité, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez y aller. Et ce que l'on sait aussi, c'est que dans des entretiens de ce type, la façon dont vous allez vous tenir, la posture du corps,
la façon dont on va faire une différence. Bon, ouais.
Le fait de redresser les épaules, d'être dans une position de conquête hein, physiquement, par rapport au fait d'être complètement voûté sur soi, ne provoque pas les mêmes sensations intérieures et la même sensation de puissance
donc
et de clarté.
On inspire la confiance et on a plus de confiance quand on se sent bien droit, par exemple.
Exactement.
Si elle a cet entretien d'embauche. D'accord.
Exactement.
Et vous parliez, je sais que vous m'en avez parlé hors antenne, vous organisez des groupes, des soirées de progrès. C'est quoi ça ? Est-ce qu'on peut tous organiser ça avec nos amis ?
Un groupe de progrès, donc, nous sommes confrontés aux difficultés absolument tout le temps dans la vie, donc sans arrêt. Nous sommes face à nos limites, sans arrêt. Les choses qu'on a foirées, qu'on a ratées, on aurait aimé dire autre chose, faire autre chose, etc. Donc une fois par mois, j'ai rendez-vous avec une bande, c'est toujours la même. Donc ce sont des gens qui, comme moi, sont dans des situations professionnelles, ont des familles, des histoires d'amour, etc. Et nous n'avons le droit, ce soir-là, de ne parler que de nos progrès. C'est-à-dire, depuis le mois dernier, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Et je vous assure que ça n'est pas un exercice si naturel que ça.
S'il n'y a pas de progrès, s'il n'y a rien, la soirée, elle est plombée.
Mais non, parce qu'il y en a. Et ce qui est fantastique, c'est d'assister à la progression des autres. Parce que c'est en les écoutant que vous vous dites, mais c'est vrai, mais moi aussi. Mais non, mais moi aussi, finalement. J'ai fait ça et il m'est arrivé ça. Et c'est vrai. Et on se rend compte que finalement, ça ne va pas si mal que ça.
Quand vous sortez de là, vous devez être super en forme.
On est super contents. Et puis alors, voilà des gens qui nous connaissent bien, parce qu'on est très, très honnêtes dans un groupe comme celui-là. Vous voyez, ce ne sont pas nécessairement les potes avec lesquels on boit des coups. C'est vraiment un endroit génial. On ne parle que du meilleur de nous. Ça se fait parce qu'en France, on ne peut pas faire ça publiquement. Il faut surtout que ce soit caché, qu'on n'ait pas l'air de dire du bien les uns des autres. N'empêche, ça fait vachement de bien.
Jimmy ?
Là, c'est vrai que vous évoquez parler du meilleur de nous. Et notamment, on peut s'intéresser à Instagram, où on poste à longueur de temps les meilleurs restaurants où on a mangé, la plus belle maison qu'on a, les plus belles vacances qu'on passe. D'ailleurs, c'est un peu névrosant, au mois d'août, de rester à Paris et de voir tout le monde en vacances. Est-ce que finalement, Instagram ne nous rend pas malheureux en voyant le bonheur des autres et en se disant « mais tout le monde a une vie extraordinaire et on ne s'intéresse plus aux autres ?»
Instagram, c'est au mieux un exercice créatif. Au pire, un miroir abominable. C'est-à-dire que une des choses, et quand on parle des super-pouvoirs, la première chose à faire, c'est d'arrêter de se comparer aux autres gens. Nous sommes tous différents, nos contextes sont différents, nos personnalités sont différentes. Instagram est une espèce d'énorme vitrine de comparaison, mais à laquelle je participe joyeusement hein, en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir représenter aujourd'hui. J'ai joué tout l'été, par exemple, avec une paire de chaussures, en me disant comment est-ce que je photographie ces chaussures aujourd'hui. Donc c'est que ça n'est pas du faux. C'est un moment créatif de ma vie, mais ça n'est pas ma vie en vrai. Donc en effet, si on prend Instagram et ce que l'on y voit comme argent comptant, c'est très angoissant. Parce qu'on se dit, mais moi, ma vie, elle n'est pas du tout comme ça. Moi,
quand on est déprimé, on regarde pas Instagram.
Ben, on essaye de s'en défaire, parce qu'il y a une espèce d'addiction là aussi physiologique du pouce sur l'écran qui va donc déclencher dans le cerveau un certain nombre de sécrétions qui fait que de plus en plus, on a du mal à poser Instagram. Mais oui, couper les réseaux sociaux, voire même couper les réseaux sociaux, ça, c'est la première étape. Si jamais on a besoin de se recentrer, de retrouver un peu comment on fonctionne nous-mêmes, bien sûr.
Alors disons que grâce à tous vos conseils, on a été embauchés. L'entretien d'embauche a bien marché. On arrive dans un nouveau boulot, donc nouveau boulot, nouveaux collègues. On a ces super pouvoirs. Hein. On se sert comment pour montrer à ses collègues qu'on est super génial, qu'on a peur de rien, sans avoir l'air d'être un gros vantard quand même. Hein. Encore une fois, je reviens à ce complexe de jamais trop dire qu'on est trop fort. Mais comment on fait au quotidien, au travail ?
Alors, avoir un super pouvoir, ce n'est pas être supérieur. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de rien. J'ai aussi peur que vous.
On a le droit d'avoir peur.
Mais oui, c'est au contraire, nous avons tous aussi peur les uns que les autres. Donc, comment on fait pour y aller ensemble, puisque tout fout la trouille, en fait ? Et c'est en se servant de ça qu'on a soi-même moins la trouille. On n'a pas besoin de montrer sa suprématie. On a juste besoin de s'éclater à ce qu'on fait. C'est-à-dire que vraiment, quand on arrive dans nos boulots le matin et qu'on repart le soir, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Comment peut-on se dire ? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Je me suis sentie trop bien ! C'est ça, avoir un super pouvoir, c'est se dire « je me sens bien ».
Jimmy ?
Là, si on peut parler peut-être un peu des enfants, là c'est la rentrée, comment est-ce qu'on fait pour valoriser nos enfants ? On est souvent obsédé par ce qu'ils font mal, Mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner confiance un peu plus en soi, notamment lorsqu'il y a un changement à la rentrée?
Alors, il faut les connecter justement à ce qu'ils ont de meilleur ou de plus plaisant. Donc, ce n'est pas tant à vous de le faire qu'à eux de le faire et de les mettre sur cette voie-là. Par exemple, je prends souvent cet exemple où avant un contrôle en classe, on dit aux enfants « Attention, ça compte pour la moyenne !» et donc tout le monde est tétanisé et tout le monde a le cerveau à l'envers pour partir. Alors qu'on s'est rendu compte que quand le matin, notamment aux petits-enfants, parce que ça c'est la question qui va les porter pour le reste de la journée, avant de commencer le moindre exercice, on fait un petit tour en disant « Qu'est-ce que tu as préféré au petit-déjeuner ce matin ?»
On ne parle pas d'école en fait.
Non, mais surtout, ce n'est pas qu'on ne parle pas d'école, c'est qu'à ce moment-là, ils vont brancher leur cerveau sur ce qu'il y a eu de mieux depuis ce matin, donc ce qu'ils ont aimé, le goût que ça avait, c'était super. Et donc à ce moment-là, il y a comme un phénomène d'élargissement dans le cerveau qui fait qu'on est plus créatif, connecté, compétent, coopératif, parce que ça a bien commencé. Donc c'est ça qu'on fait, en accompagnant un enfant qui justement a la trouille le matin, à la rentrée, mais vous vous souvenez à quel point on avait la trouille d'aller en classe.
On a la trouille et puis on est un peu excité aussi, on est content, ouais, c'est ça.
Mais de lui demander de reparler de ses vacances, de reparler de ses cousins, de reparler de ses copains, de le brancher sur des choses qui sont positives, parce que tout va suivre en fait. C'est la poule et l'œuf. Et en ouvrant le cerveau comme ça, il va être préparé pour le reste de la journée.
Avec les ados, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais ça marche aussi parce que bon, l'ado, il veut parfois la communication avec les parents, elle est un peu plus difficile, ça arrive. Comment on le branche, l'ado, aussi sur ce côté positif?
Eh bien, la seule chose, à ma connaissance, que l'on puisse faire, parce qu'on ne peut changer personne, c'est juste de montrer l'exemple. Ah. Donc, par exemple, nous avions une pratique à la maison, et j'ai introduit ça quand mes enfants étaient ados, donc il y a eu quelques résistances, mais n'empêche, on y est arrivé, qui est le soir de faire un tour de kiff. Alors, un kiff, c'est quoi? C'est quelque chose pour lequel j'ai l'élan de dire merci. Et donc, j'avais appelé ça kiff exprès, hein, pour qu'ils veuillent bien participer, parce que si je leur parlais de gratitude, ils n'auraient jamais joué le jeu. N'empêche, ça a marché. De juste rebrancher toute la famille ensemble sur chacun a le droit de dire « Aujourd'hui, moi, je veux dire merci pour un truc, c'est ça ».
Merci beaucoup Florence Servan-Schreiber. Alors grâce à vous, on va attaquer cette rentrée scolaire ou même le travail avec beaucoup plus d'optimisme. Je suis sûre qu'il y a déjà plein d'auditeurs qui sont en train de lister leurs super pouvoirs. Je vois Jimmy là, il est en train de faire une liste justement. Merci beaucoup Florence d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le titre de l'un de vos livres, Power Patate. On a tous des super pouvoirs chez Marabout. Dans un instant, on va s'intéresser aux bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler bronzage. Comment conserver ce joli teint allé que certains ont peaufiné tout l'été sur la plage ou au bord de la piscine. On vous dira tout. Restez sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De retour dans votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle de bronzage, c'est pas vraiment un bobo, mais justement Caroline Baudry est partie à la recherche de tous les gens bien bronzés qu'elle a trouvés. Comment font-ils pour le faire durer? On écoute.
Je perds jamais la marque du maillot de bain, donc on peut dire qu'elle dure au moins un an.
Beaucoup de crème hydratante pour éviter de peler.
J'ai trouvé des compléments alimentaires à la bêta-carotène. Du coup, j'en prends à peu près pendant tout l'été et un petit peu à la fin de l'été. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est de se protéger, parce que le bronzage est plus beau quand on se protège.
Faire des gommages avant de partir en vacances. Il y a aussi des crèmes qui maintiennent le bronzage.
Moi, tous les jours, en fait, je mets de mon œil. Et sinon, je ne fais jamais des UV parce que non, je trouve que ce n'est pas bien.
Une peau brune, une peau blonde, une peau rousse, je pense qu'elles réagissent toutes différemment.
Une hydratation toute l'année, deux fois par jour minimum, hiver comme été. J'essaie de manger vraiment un maximum de carottes.
Alors, on va voir si les carottes ça marche, mais Jimmy, donc on parle bronzage aujourd'hui, c'est pas vraiment votre spécialité, hein, vous êtes plutôt médecin quand même. Donc là, du coup, c'est plutôt une question beauté, on va dire. Hein. Et quand même, pour ceux qui sont partis en vacances, encore fin août, début septembre, si on veut se mettre au soleil, c'est mieux. Le soleil est moins fort, en fait, du coup, plus besoin de crème, là, c'est ça?
Ouh là là, malheureuse Mélanie.
Quoi?
Mais quelle mauvaise idée. Le soleil est dangereux toute l'année lorsqu'on s'expose et qu'on ne se protège pas.
J'ai oublié que vous étiez un fanat de la crème solaire.
Oui, exactement. Je suis un psychopathe de la crème solaire. Donc, mettez la crème solaire, ça ne vous empêchera pas de bronzer. Ça évitera que les UV, qui sont toxiques, vous donnent le coup de soleil dans un premier temps. Et puis, sur le long terme, un cancer cutané. Et on sait que plus les enfants ont des coups de soleil dans l'enfance, plus ils risquent de développer un cancer cutané.
Alors là, on parle des gens qui sont déjà bronzés. Donc, on va rester dans le médical. D'abord, pour qu'on comprenne bien, le bronzage, être bronzé, ça veut dire quoi concrètement pour notre peau? Quoi,
alors, c'est simple, c'est l'équivalent d'un coup de soleil et un coup d'une brûlure au premier degré. Le coup de soleil, c'est ça. Donc, c'est la peau qui brûle en fait et qui réagit. La peau est un filtre pour éviter que les UV n'agresse les cellules. Et nos cellules de la peau sont constituées de mélanocytes et ils forment de la mélanine, cette mélanine qui absorbe les UV et qui noircit, qui devient plus foncé et qui donne ce teint hâlé. Et donc c'est un mécanisme de défense et c'est un mécanisme lié à une agression. Et c'est pas simplement un côté esthétique tout simple.
Donc c'est joli le bronzage, mais en fait c'est vraiment le résultat d'une agression.
Retenez qu'un coup de soleil, c'est une brûlure au premier degré.
Bon, on est bronzé mais brûlé. Et ce mécanisme de défense de la peau, là, donc le fait d'être brûlé, est-ce que ça marche aussi avec le rayonnement du soleil en hiver? Parce que bon là on est en période d'été, mais en hiver au ski ça fait pareil, là. Enfin je dis au ski ou à la montagne, quand on bronze, il se passe la même chose.
Et ça peut même plus dangereux en hiver qu'en été, parce qu'en plus il y a l'effet de réverbération du soleil sur la neige, ou la même chose lorsqu'on est dans l'eau. Et donc en hiver il faut aussi se protéger, donc même à la montagne, on met de la crème solaire.
Alors maintenant, ça va être plutôt à moi de jouer du coup pour les conseils beauté. Comment on garde son bronzage le plus longtemps possible? Alors ce que disent les spécialistes, hein, on ne pourra pas garder jusqu'à Noël, ça c'est sûr. Mais d'abord, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est gommer. Alors gommer, ça veut dire exfolier. On ne parle pas d'un gommage hyper violent, mais ça ne fera pas partir le bronzage. Hein, d'ailleurs, contrairement à ce que certains imaginent. Bien au contraire, en fait, quand on fait un petit gommage doux, je vous vois m'écouter avec grande attention,
ah oui,
Jimmy,
je bois vos paroles,
à mon gommage doux, donc sous la douche tous les 3 jours, par exemple, au retour des vacances, bah, en fait, ça va rendre le bronzage encore plus éclatant. Donc on peut utiliser un gel douche gommant, on n'a pas besoin d'acheter un gommage. D'ailleurs, il y a des gels douche aujourd'hui qui contiennent des petits grains, et bien ça fera l'affaire. L'autre secret, en plus du gommage pour garder un bronzage le plus longtemps possible, c'est l'hydratation. C'est même le secret principal, hein, je dirais. Donc là aussi, on peut commencer ça sous la douche, l'hydratation, en se lavant par exemple avec un savon ou un gel douche qui est plus hydratant que d'habitude. Il y a maintenant d'ailleurs des huiles de douche, vous avez peut-être vu ça dans les supermarchés, qui sont très nourrissantes. Et avec ça, déjà, sous la douche, justement, ces huiles de douche qui sont très nourrissantes, ça va déjà faire une première couche d'hydratation, je dirais, pour la peau. Donc, Jimmy, vous notez tout bien, j'espère, hein, l'hydratation,
ah oui,
sous la douche,
ah
les
oui,
crèmes, les huiles, voilà, pour prendre soin de votre peau, je vous sens passionnée. Donc, je disais hydratation encore plus, parce qu'au-delà de la douche où on s'est hydraté, bah, évidemment, pour garder un teint hâlé, eh bien, il faut hydrater la peau matin et soir, que ce soit le visage ou le corps, tout ça pour éviter la desquamation, le fait de peler en fait. Parce que là par contre, autant le gommage, ça garde le bronzage, mais peler, là la peau elle part et le bronzage est parti avec. Donc on hydrate matin et soir. Et d'accord, on est d'accord Jimmy aussi que pour hydrater, finalement ça passe pas que par les crèmes. Hein.
Non, il faut aussi boire.
Qu'est-ce qu'il faut faire, voilà.
Et c'est minimum 1,5 litre voire 2 litres en période de chaleur.
Pour rester bronzé, on boit beaucoup.
On continue de boire et puis ça permet d'éviter notamment les cystites. En été, c'est la saison des cystites, des coliques, des calculs au niveau des reins. Et on ne boit pas d'alcool, plutôt de l'eau pour se réhydrater. Donc minimum 1,5 litre à 2 litres pour garder un beau bronzage.
Et pour bien hydrater, pour garder le bronzage, je parlais de crème, mais ça peut être des formules après soleil. En fait, maintenant, il y en a partout en pharmacie ou en supermarché. Elles sont justement riches en eau et en gras. Et pendant cette période, on peut remplacer un peu la crème hydratante par ses soins après soleil. Ça suffit largement, au moins pendant 3 semaines, disons, on va pouvoir garder ce joli teint hâlé. Et puis après, Jimmy, on est d'accord, hein, une fois que le bronzage est parti, ben, il reste quoi? Le maquillage et les autobronzants, vous avez l'habitude, non?
Pour cacher la misère, oui, j'ai pas le choix.
Donc là, pas le choix. Et puis sinon, la solution, c'est de repartir en vacances.
Ah oui, ce serait pas mal, ça.
Merci beaucoup, Jimmy. On va repartir en vacances, alors. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez sur tout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des sextoys et de jeux sexuels. Mais d'abord, on aime la musique sur Europe 1. On écoute le titre Like a Prayer de Madonna.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on va parler de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, même si on n'ose pas toujours les aborder. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler des sextoys, qui signifie jouer asexuel en anglais, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. On a voulu répondre à la question d'un auditeur, Simon, qui a 52 ans. Je vous la lis. Alors, j'ai offert à ma femme pour la Saint-Valentin un sextoy. Elle l'a très mal pris. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas faire de nos ébats un jeu. Quel est son problème? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Simon là? Est-ce qu'elle a un problème, sa femme, du coup?
Peut-être, mais peut-être pas. Parce que la sexualité, c'est une histoire très individuelle. On construit tous notre sexualité avec notre imaginaire. Et tout ne nous émeut pas de la même façon les uns et les autres. Donc, elle peut avoir quelques pudeurs, effectivement, qui font qu'elle ne veut pas rentrer dans un jeu qu'elle pourrait désirer, mais qui est trop abrupte pour elle et qui n'a pas été annoncé, qui n'a pas été conjointement accueilli, en tout cas réfléchi. Ou alors, elle a le sentiment sentiment de devenir elle-même un jouet de l'autre, des fantasmes de l'autre, et d'être obligée d'être un peu comme une poupée gonflable du fantasme de l'autre, ce qui du coup lui fait violence.
Mais ça se fait aujourd'hui d'offrir un sextoy, alors je ne sais pas s'il y a des choses qui se font d'ailleurs, mais est-ce que ça se fait d'offrir un sextoy comme ça par surprise en quelque sorte? Ou alors est-ce que peut-être Simon, il aurait dû justement la prévenir, je vais acheter ce genre de jouet?
Je pense que la surprise, elle est amusante quand il y a déjà eu des échanges ou que la dame en question a trouvé ça rigolo et puis qu'ils n'ont pas rebondi dessus, puis tout d'un coup arrive le sextoy. Mais sinon c'est assez maladroit parce que surtout selon les circonstances, ça peut parler d'autre chose que de l'amour, ça peut parler tout d'un coup d'un désir, surtout si par exemple une femme rechigne à faire l'amour, si elle peine à être dans la disponibilité, bien finalement elle n'entend pas ce cadeau comme étant un cadeau pour elle, mais un cadeau pour lui auquel elle est en devoir de répondre.
Docteur Dimi Mohamed,
est-ce que finalement le nom de la femme de Simon, c'est un nom définitif? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut pas faire de ses ébats un jeu? Ou est-ce que finalement elle est peut-être ouverte un peu plus tard?
Alors déjà, il faut arrêter de penser que le jeu, c'est l'utilisation des sextoys, parce qu'on est capable de jouer même sans ces objets, ne nous laissons pas avoir par le marketing qui n'est prêt à nous vendre tout et n'importe quoi à l'occasion. D'ailleurs, les sextoys, avant d'être vendus, nous les avons fabriqués depuis que l'homme est homme. Hein.
Ah bon ?
Il y a des godemichés qu'on trouve chez les antiquaires en bois, il y en a eu en cire, il y en a eu, enfin vraiment, il y a eu une créativité artistique et de longue date. Donc, c'est pas parce qu'elle refuse là qu'elle n'est pas joueuse, ça peut être tout simplement dire qu'elle n'est pas joueuse de cet objet-là ou de cette situation-là, puisque, rappelons-le, la sexualité, c'est une histoire d'un jeu relationnel. Donc, ce n'est pas nécessairement appliquer quelque chose qui est un devoir imposé par l'autre.
Mais c'est quoi jouer sexuellement? Parce qu'en fait, ça passe pas forcément par un sextoy. Justement, on peut jouer sans avoir d'objet au milieu.
Jouer, c'est sortir de la représentation dans laquelle on se fige. C'est un petit peu comme les enfants quand ils disent tiens, si on joue à la marchande ou si on joue au docteur, ils jouent autre chose, une autre expérience d'eux-mêmes. Et dans la sexualité, le meilleur moyen effectivement pour épanouir sa sexualité, c'est se débarrasser de notre personnalité au sens littéral du terme. Persona vient du grec qui veut dire masque. Et donc, on a tous un masque dans la société, une rigidité plus ou moins forte que dont nous nous habillons. Et au moment de la sexualité, jouer, c'est lâcher ça et se donner le droit d'autres positions de nous-mêmes, d'autres regards sur nous-mêmes, proposer à l'autre et de regard sur l'autre un peu différent de ce que l'on sait ou connaît ou ce dans lequel on s'enferme l'un l'autre.
Et donc ça passe pas toujours par un produit au milieu, un jouet quoi.
Pas
ça
du
peut
tout.
Passer par quoi par exemple concrètement?
Ça peut être que dans la tête par exemple, hein, c'est-à-dire se voir dans une position ou se voir animé d'un désir qui est trop difficile à porter peut-être dès lors que l'on est hors contexte sexuel par exemple.
Jimmy?
Alors contrairement à Mélanie, moi je ne suis pas un expert en sextoy. Je pense que j'ai cru comprendre qu'il y en avait énormément. Plein de différents, des connectés, des trucs extraordinaires.
On ne regarde pas d'abord.
Oui, mais bon.
C'est vrai,
mais
si ça ne regarde pas.
On veut commencer par utiliser un sextoy, c'est quoi le plus simple, le plus pratique pour débuter?
Ah non, mais vous êtes gonflé. Parce que là, c'est franchement.
Vous voyez comme il amène la question, j'adore.
En fait, il n'y a pas de mode d'emploi ni dans les sextoys ni dans la sexualité. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qui convient aux deux. Parce que pour l'un, ça va être peut-être une plume pour se caresser et faire que tout d'un coup, les peaux frémissent. Mais pour d'autres, ça va être un objet intergalactique, on ne sait pas, en couleur fluo, vibrant, massant, de taille énorme. Enfin, c'est vraiment une histoire très 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 personnel. Et encore une fois, ce peut être aussi sculpté dans une carotte.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc des sextoys sculptés dans des carottes. À demain Catherine, voilà. C'est la fin de cette émission. Demain, on parlera notamment d'augmentation mammaire. Quelles sont les nouvelles techniques qui permettent de gagner un ou deux bonnets? Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Vous allez adorer les fantasmes mammaires.
Hein, je vais suivre effectivement avec attention. Toujours un plaisir de vous retrouver. Car il faut révéler quand même un petit secret à nos auditeurs.
On ne fait plus l'amour qu'une fois par mois environ.
Non, mais non, je voulais dire, on se connaît un peu hors antenne, quoi, on s'apprécie dans la vie. Bref, oui, restez avec nous Mélanie, l'équipée sauvage déboule, 2 heures pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, sans jamais oublier d'en rire, via une grande battle des journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour, sous l'œil de nos invités arbitres, aujourd'hui les talentueux Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui signent leur deuxième film, La Vie Scolaire, qui sort demain et que je vous recommande déjà chaudement Mélanie.
Voilà, merci Mathieu, bonne émission et surtout restez sur Europe 1.